BW. Droits et libertés.
Des centaines de milliers de personnes sont portées disparues chaque année dans le monde. Le 30 août est la journée mondiale qui leur est consacrée. L'occasion pour nous de voir comment fonctionne le fichier de la Croix-Rouge qui tente de rassembler les familles dispersées. Et puis nous parlerons dans la seconde partie de cette émission avec un journaliste, Paul Mben, qui pense que pour pacifier le nord du Mali, il va bien falloir aussi parler aux terroristes. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. Et on commence ce magazine par un reportage de Charlotte Müller. Elle s'est armée de son micro et s'est rendue au musée Haus der Geschichte, la maison de l'histoire allemande, qui est à Bonn, pour savoir comment fonctionnait le fichier créé par la Croix-Rouge en 1945 pour retrouver tous les disparus au sortir du conflit.
Où sommes-nous ici ?
Nous sommes dans la maison d'histoire de la République fédérale à Bonn. C'est une exposition qui montre l'histoire à partir de 1945 jusqu'à l'époque actuelle. Ici, à l'entrée, on commence avec la situation après-guerre, c'est-à-dire la situation pour les Allemands quand la guerre a été finie. À l'époque, beaucoup de gens ont été séparés. Il y a eu des millions de morts, des millions de réfugiés. 25% des habitants cherchaient un membre de la famille. Et qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? À votre droite, vous voyez un grand mur avec plein de papiers. Les gens qui cherchaient un membre de la famille, on collait des papiers sur des murs des habitations, aux gares délabrées ou même sur des lanternes. C'était des papiers portant le nom des personnes recherchées.
Fähnrich Ernst Tetzlaff, geboren 3.6.1915 in Würsitz, Polen, wird gesucht.
Fähnrich Ernst Tetzlaff, né le 3 juin 1915 à Würsitz en Pologne. Recherché, indication et message à envoyer à Mathilde Tetzlaff.
Nachricht erbeten an Mathilde Tetzlaff.
Rosalie Moritz, bitte melde dich.
Rosalie Moritz, contacte-moi. Moi, ta sœur Amélie Moritz te cherche.
Ich, deine Schwester Amélie Moritz, suche dich.
Cette méthode n'était pas très efficace et c'est la raison pour laquelle il a fallu absolument fondre un seul centre de recherche pour l'ensemble des quatre zones d'occupation. Et ce centre de recherche a été fondé par la Croix-Rouge allemande en 1945.
Den Suchdienst gibt es schon seit über 150 Jahren.
Dorota Zivoki, directrice du service de recherche de la Croix-Rouge allemande.
Allerdings als Institution, die dauerhaft besteht.
Le service de recherche de la Croix-Rouge allemande existe depuis 150 ans, mais il n'a sa forme actuelle que depuis les tout derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, une grande partie des familles allemandes avaient été dispersées et souvent les membres d'une même famille avaient perdu le contact à cause des bombardements des villes, des expulsions de populations des anciens territoires allemands, de la captivité. Il y a beaucoup de raisons.
Also ich bin Jahrgang 1950, also wir haben das.
Je suis née en 1950, donc j'étais bien consciente des disparus après la Deuxième Guerre mondiale. Même dans ma famille, on cherchait mon oncle. Il n'a jamais été retrouvé. Et on savait que beaucoup d'enfants se retrouvaient tout seuls après la guerre.
So viele Kinder auf der Strecke geblieben sind.
Also in den Jahren, in den fünf Jahren nach dem Krieg, 1945.
Entre 1945 et 1950, on a reçu 14 millions de demandes pour rechercher des personnes disparues pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant ces 5 ans qui ont suivi la guerre, on a réussi à retrouver la trace de 8,8 millions de personnes.
Schicksalsklärende Auskünfte zu ihren Angehörigen geben.
Comment est-ce qu'on a procédé aux recherches après la guerre ?
Pour entamer une recherche, on a seulement besoin des données personnelles de la personne disparue et de la personne qui la cherche, et il nous faut l'endroit et la date du dernier contact. On a un fichier central de noms qui contient 50 millions de fiches et qui donne des renseignements sur 20 millions de destins de personnes disparues. À l'époque, on travaillait encore avec ce fichier central sur fiches cartonnées pour traiter les demandes.
Après la guerre, la Croix-Rouge allemande fait passer aux informations des messages d'enfants qui cherchent la famille.
Meine Schwester Annelise und Ruth, die ich auf der Flucht verloren habe, und meine Mutter, die in Potsdam verschüttet ist.
Un grand problème à l'époque, c'était les enfants. Beaucoup d'eux étaient en effet beaucoup trop jeunes pour savoir leur nom ou le nom de leurs parents. Dans ce cas, les cartes servaient pratiquement à rien. On se servit des photos qui furent la base de recherche après-guerre. Et dans des foyers d'accueil, on a fait des cahiers avec les photos des enfants. Et sous la photo, on a souvent noté des courtes remarques telles que « veste bleue » ou « ours effiloché ». Et parfois, c'était un grain de beauté, une cicatrice qui permettait aux enfants de retrouver un membre de la famille.
On a aussi reçu des demandes des recherches qui concernaient les deux États allemands. Dans la zone d'occupation soviétique et plus tard dans l'ancienne Allemagne de l'Est, il y avait aussi des familles séparées de chaque côté de la frontière interallemande. Et ces personnes-là aussi ont cherché à renouer le contact avec leurs proches. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'Allemands chassés des pays de l'Est sont réfugiés en Allemagne de l'Est, c'est-à-dire l'ancienne République démocratique allemande. Eux aussi étaient souvent séparés de leurs proches et la Croix-Rouge s'occupait d'eux aussi.
Und auch die Menschen haben wir betreut. Und interessant ist das große Interesse.
Ce qui est intéressant, c'est le grand intérêt de la société allemande, mais aussi des pays scandinaves, de l'Autriche, de la Pologne et d'autres anciennes républiques soviétiques, de chercher à retrouver la trace de personnes disparues pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, on reçoit chaque année 1 000 000 de demandes environ venant de l'étranger. L'année dernière, on a reçu au total encore 10 091 demandes, rien qu'en comptant celles qui portaient sur la Seconde Guerre mondiale, 75 ans après la guerre. C'est quand même énorme.
75 Jahre nach Kriegsende, das ist eine sehr hohe Zahl.
Ein Grabenstein auf der Tien. Josef Kindermann, geflüchtet von Bromberg mit meinem Onkel zusammen. Der Flucht mein Onkel verloren.
Wir waren und sind.
Je dirais que nous étions et que nous sommes encore le service de recherche le plus grand d'Europe et sans doute dans le monde entier. Les conflits et les guerres sont encore nombreux de nos jours, ce qui fait qu'il y a toujours à faire. Il y a toujours beaucoup de personnes qui recherchent des proches et ça risque d'être le cas encore longtemps.
Nehmen wir an, Flüchtlinge aus Nordafrika.
Si par exemple il y a des migrants venant d'Afrique du Nord qui se sont séparés ou qui ont été séparés durant leur périple et qui ne savent plus où sont leurs proches. Mais ils supposent qu'ils sont en Allemagne parce qu'avant de se quitter, ils ont choisi l'Allemagne comme destination. C'est ainsi qu'on peut recevoir de la Croix-Rouge française, par exemple, une demande émanant d'un réfugié afghan arrivé en France mais qui pense pouvoir retrouver sa famille en Allemagne. La Croix-Rouge française nous adresse ce type de demande de recherche et vice-versa. Voilà comment ça marche.
Frage hier an uns oder umgekehrt. So funktioniert das.
Il est très important pour toutes les personnes qui ont perdu un proche qui a disparu de savoir ce qui lui est arrivé. Sans cela, on ne peut pas retourner à la vie normale. Les gens ont besoin de savoir.
Man braucht Gewissheit.
Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Dans la seconde partie de ce magazine, nous nous entretenons de l'avenir du Mali avec le journaliste Paul Mben qui préconise, vous allez le voir, que la nouvelle junte au pouvoir à Bamako entame des discussions aussi avec les mouvements terroristes du Nord.
En Afghanistan, les Afghans sont en négociation avec les talibans. Donc pourquoi est-ce que nous n'allons pas au Mali essayer de négocier ou bien d'entrer en pourparler avec des groupes armés terroristes maliens pour en négocier avec eux si c'est possible. C'est très difficile, c'est très compliqué parce que les groupes armés terroristes reçoivent leurs ordres d'ailleurs. C'est Al-Qaïda, c'est l'État islamique.
Le groupe État islamique, oui.
Voilà, ce n'est pas des Maliens. C'est des Algériens, c'est des Pakistanais. C'est des gens qui n'ont pas du tout la fibre patriotique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de soucis des Maliens, quoi. Ils ont un intérêt pour le Mali, c'est d'en faire un califat.
C'est un intérêt territorial, quoi.
Voilà, justement.
Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Je parle là du point de vue des autorités maliennes, quelles qu'elles soient, quelqu'un comme Yada Gali, qu'est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut aller dans la négociation?
Il faut d'abord que les revendications de Yada Gali concordent avec la constitution du Mali, le développement du Mali.
Mais justement, est-ce que c'est pas déjà là que ça bloque, quoi, dès le départ?
Justement, c'est le plus gros point de blocage. Jusqu'à preuve du contraire, le Mali a toujours été un État laïque. Le Mali ne peut pas devenir demain comme ça un État islamique. Ça, c'est ce n'est pas du tout en accord avec nos principes. Et en plus de cela, beaucoup de Maliens, comme moi, savent que ces groupes armés terroristes vivent de la prise d'otages, du trafic de drogue.
Oui, trafic de drogue, trafic d'armes.
Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de munitions.
Et une amnistie, ça pourrait marcher comme en Algérie, au nom de la réconciliation?
Non, c'est très difficile.
On n'en est pas à ce stade-là de toute façon pour le moment.
Non, pas du tout. Et la présence européenne ou bien la présence étrangère sur notre sol, c'est aussi quelque chose que ces gens-là ne tolèrent pas.
Est-ce que c'est pas aussi le fait même qu'il y ait eu un coup d'état militaire, un échec de toutes les missions de formation UTM qui sont là depuis combien de temps ? 7 ans maintenant ?
Voilà, vous voyez, ma vision des choses, c'est que c'est du business. Il y a 27 pays de l'Union européenne qui sont à Kulikoro depuis 2013. On a formé, je crois, déjà une dizaine ou quinzaine de bataillons, mais ça ne sert à rien. Sur le terrain, ça ne répond pas. Et quand on vous dit un bataillon, c'est près de 800 bonhommes. Et dans les 800 bonhommes, vous avez tout. Ça commence du génie militaire aux forces spéciales. Vous ne trouvez pas cette chaîne sur le terrain. À quoi ça sert là, les forces spéciales là, elles sont où? Vous les retrouvez à Bamako, vous les retrouvez à Mopti, vous les retrouvez un peu à Gao. Mais tout de même, il n'y en a pas. Et c'est ça le problème. Je n'en veux pas d'abord aux Français ni aux Européens, j'en veux d'abord au Mali. Pendant que les gens envoient leurs enfants vous aider, vous êtes en train de voler. Ça, c'est pas bon. La corruption, ils sont en train de détourner des centaines de millions qui sont destinés à acheter des avions, des armes et tout ça. Et pendant ce temps, les autres viennent nous aider. Ça, c'est pas bon.
C'est la fin de ce magazine. Merci beaucoup à Charlotte Müller pour son reportage. Caroline Gölke-Leverenz du musée. Dorita Tvivoki de la Croix-Rouge. Et puis Paul Ben, bien sûr, pour cet entretien sur le Mali. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, ne lâchez rien.